Lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon tiré à mort.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Allez. Je n'étais pas en train de dire qu'on acclame pour ce programme. Je sais que ce programme est glorieux. Mais j'étais en train de dire qu'on acclame pour Jésus, qu'on acclame pour celui qui nous a invités, conviés dans ce programme. Celui qui a répandu sa grâce, son onction et sa présence afin de réactiver des vies. Afin que ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Enfin que la vallée des ossements soit transformée en une vallée de gloire, de gloire, de gloire, de gloire. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour ta présence. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce. Je ne manquerai pas de présenter d'abord mes remerciements à mon frère, le responsable de la jeunesse. Je vous ai que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à toute l'équipe de la jeunesse, le frère Don et toute l'équipe. Merci pour la grâce, la confiance qui a été placée en nous afin d'être le petit instrument de Dieu, afin d'apporter la pensée, une petite pensée dans cette conférence. Merci également à nos pères, le pasteur de l'Église, ainsi que toute l'équipe pastorale pour la marque de confiance envers ma petite personne. Alléluia. Et merci également à toi d'être venu également cet après-midi. Encore, est-ce que tu peux acclamer également pour toi-même? Alléluia. Alléluia. Et donc, j'ai beaucoup de choses pour lesquelles je peux rendre grâce à Dieu. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il me donne d'être dans cette église. Ça fait longtemps que je n'ai pas été ici. Mon histoire personnelle avec la paroisse Gomaville date d'il y a longtemps. Je me souviens à l'époque, on venait faire des répétitions ici. Je me souviens à l'époque dont on était encore parmi les plus jeunes à l'époque, en 2014, en 2013. Et donc, j'ai une très, très bonne histoire et des bonnes mémoires à chaque fois que je viens ici. Je me souviens de comment Dieu nous a fait du bien dans ces cadres. De comment avec le frère Alain, papa Ozias, le frère Darcy, toute l'équipe, combien Dieu nous a fait du bien. Et donc, si toi, tu pensais que je n'étais pas de la maison, alors tu étais en train de te tromper parce que moi aussi, je suis de la maison. Alléluia. Amen. Donc, je veux nous proposer trois textes pour ce soir. Le texte principal se trouve dans Jean chapitre 20, un long texte qui va faire l'objet de toute mon élaboration selon le fardeau que Dieu a placé dans mon cœur. Par rapport à ces grands thèmes de cette conférence qui parle de la réactivation. Jean chapitre 20, je commence au premier verset, je vais descendre jusqu'au 18e. La Bible dit ceci: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa et regarda dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la tête et assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il avait dit ces choses. Le deuxième passage se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 9, un passage que nous connaissons très bien. Je vais commencer à partir du 24e verset. 1 Corinthiens 9, 24. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. » Et le dernier passage se trouve dans 1 Samuel, chapitre 3. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, « Mais voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et dit, « Samuel. » Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Mais voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Amen. Alléluia. Je sais que les textes ont été un peu longs, mais j'espère que dans son élaboration et dans son exploitation, je serai le plus bref et succinct possible. Je n'ai pas pu être là physiquement hier, mais j'ai pu suivre en replay sur les réseaux sociaux la merveilleuse introduction qui a été faite hier par un aîné, le pasteur Pacifique. Et il a abordé cette thématique en parlant de la gestion des bons temps. Combien parfois, à un certain moment, les choses qui nous amènent à être, comme je pourrais employer, désactivés, peuvent être de ces choses qui nous font la plupart des temps plus du bien. Et que parfois, on peut être dans une situation favorable et de cette situation favorable qu'on ne sait pas bien la gérer. Les situations favorables nous amènent à être éteints ou désactivés de ce qui est de Dieu, de la pensée de Dieu, même de la mission de Dieu. Il nous a parlé de cette histoire, je ne vais pas revenir. Quelle exploitation qui a été merveilleuse. Je sais que tous, nous avons été bénis. Alléluia. Mais alors qu'on est en train de parler de la réactivation, je voudrais pour ce soir que nous retenions deux choses d'abord en introduction. La première, c'est que quand on parle de réactiver, on fait allusion à rendre de nouveau actif, c'est-à-dire activer de nouveau. Et quand on parle de rendre à nouveau actif, il y a deux pensées majeures qui se dégagent de rendre actif, ou deux conclusions, ou deux aspects qui se manifestent à l'intérieur. Le premier aspect, c'est un mouvement ou une action qui a été mise en arrêt à un certain moment. Quelqu'un était en train de marcher, quelqu'un était en train d'avancer, mais à un certain moment, il a fait comme un stop, il s'est arrêté. Il n'avance plus, il est maintenu dans un lieu. Rendre de nouveau actif. À un moment donné, alors qu'on était en mouvement et en action, en train d'avancer, subitement, par une situation ou par un fait, on se retrouve en arrêt. Mais la deuxième des choses également, quand on parle de rendre de nouveau actif, on fait allusion non pas simplement à un arrêt, mais à un mouvement qui est en baisse de vitesse. C'est-à-dire que je ne suis totalement en arrêt, mais par rapport à ma vitesse initiale, la vitesse actuelle, elle est en baisse. Je suis en baisse de vitesse. J'étais en train d'aller rapidement, mais depuis un certain temps, je sens la lourdeur. J'ai commencé à aller un peu plus lentement. Quand on parle de réactiver, certaines personnes peuvent simplement penser, disant que non, mais je tiens encore debout. Mais même la Bible dit que celui qui est debout prenne garde qu'il ne tombe. Donc dans la pensée également que je vais aborder ce soir, c'est celle de nous mettre également en garde, de nous dire qu'il est possible qu'on n'est pas encore en arrêt, mais qu'on a baissé simplement de vitesse, qu'on a décidé de mener au ralenti une certaine forme de vie chrétienne, une certaine forme de vie attachée à Dieu. Et également, cette conférence est venue également pour nous, pour essayer de nous dire, non, nous devons reprendre de la vitesse, nous devons accepter d'avancer. C'est ainsi que Paul, parlant à Timothée, dans 1 Timothée 4, le 14e verset, il dit ceci à Timothée, il dit, mon fils Timothée, ne néglige pas les dons qui sont en toi et qui t'ont été donnés par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Et quand il avance un peu plus tôt, un peu plus dans 2 Timothée 1, le 7e verset, il dit ceci, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. J'aime la version Semer qui dit, en effet, Dieu ne nous a pas donné un esprit qui fait de nous des lâches. Mais il nous a donné un esprit qui nous rend forts. En d'autres termes, étant en Christ, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit qui fait de nous des lâches. En regardant à un certain moment les situations de la vie, peut-être par lesquelles on passe, mais on décide de dire non, je décide d'abandonner, de croiser les bras. L'esprit que Dieu nous a donné, la Bible dit, c'est un esprit de force et qui crie en nous, Abba, Père. Un esprit de force. Et aujourd'hui, je suis venu nous rappeler que si on doit réactiver, on doit prendre conscience de ce que l'Esprit de Dieu au-dedans de nous est capable de nous amener au-delà de nos propres capacités, au-delà de nos propres aptitudes. Quelqu'un a essayé, mais à chaque fois qu'il l'essaye, il se retrouve en arrêt. Il prend une décision d'avancer, mais à un certain moment, il se retrouve déjà en baisse de vitesse. Je suis venu nous rappeler que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu est un esprit de force. Là où tu n'arrives pas par toi-même, confie-toi en l'Esprit de Dieu et laisse-lui te porter sur ses ailes. Laisse-le te mener au-delà de tes propres forces et au-delà de tes propres limites. Et la deuxième des choses, c'est redonner une nouvelle vigueur. J'associe ça à la première que je viens de finir. Quand on parle de réactiver, c'est-à-dire que Dieu veut nous donner ou Dieu nous appelle à nous fortifier et à posséder une vigueur nouvelle, une force nouvelle, une capacité nouvelle. Dans Apocalypse 2, à partir du deuxième verset, l'Esprit parlant à l'Église dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Mais il dit ceci, « Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. » La version Parole de vie 2017 dit « Mais j'ai un reproche à te faire, c'est que tu ne m'aimes plus comme au début. Ton amour pour moi continue à exister, mais cet amour est différent par rapport à l'amour que tu manifestais pour moi au début. » Combien à un certain moment, un des frères était en train de prêcher à l'église, à la convention de la jeunesse chez nous, il était en train de dire « Je préfère le radicalisme d'un nouveau converti que l'acceptation d'un ancien converti. Je préfère un nouveau converti qui reste radical. Quand on parle de certaines choses, il est radical, il dit non, ça c'est le péché. Non, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas aller. » Plutôt qu'un ancien qui a déjà fait 20, 30 ans dans la foi, mais qui commence à baisser de vitesse et qui commence à accepter, qui commence à regarder certaines choses et dit bon, basse, je peux être avec les amis, bon, d'abord aussi à pomme et mis ta couille. Tu les achètes, mais toi-même, tu ne bois pas. Ce que je veux te dire, c'est que demain, tu vas te rencontrer, c'est que tu n'achetais plus simplement pour les amis, mais tu vas te rendre compte que même toi-même, tu commences à t'en acheter pour toi-même. Redonner une certaine vigueur. Redonner une certaine vigueur. Alors, il est préférable de prendre conscience que quand on a commencé avec Dieu, on doit tenir ferme, on doit tenir debout. Vous savez, quand on est tombé, ce n'est pas le jour où on a commencé à glisser. Le jour où on est tombé, si on a pris conscience qu'on avait commencé à glisser il y a longtemps, on se retrouve simplement à terre. Mais le but de cette conférence, c'est de nous dire, Dieu ne veut pas que tu arrives à terre. Dieu veut que tu prennes conscience de dans ton domaine respectif, dans cet aspect de vie là où tu as commencé à glisser, que tu n'arrives pas à terre, mais que tu tiens, que tu te tiennes debout. Et Apocalypse 2, le cinquième verset, il est en train de dire, souviens-toi donc d'où tu es tombé. « Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai son chandelier de ta place, à moins que tu te répandes. » Et donc, quand on parle de réactiver, il y a trois mots qui sont ressortis dans la pensée de cette jeunesse. Et le premier mot, c'est que nous devons accepter de raccrocher. Papa Pacifique nous a parlé de la gestion des bons temps, le pasteur Pacifique. De comment est-ce qu'à un certain moment, même qu'on peut avoir toutes les prédispositions, mais à certaines choses pour lesquelles on doit accepter de dire non. Parfois, on vient dans la présence de Dieu, on fait des réclamations et des prières. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais nos motivations de ce que nous voulons que Dieu nous donne n'a rien à voir avec le Dieu qui va nous donner ce qu'on demande. Mais ce soir, je suis venu nous dire, comme il a dit hier pour ne pas revenir dans ça, c'est que nous devons raccrocher par rapport à certaines choses. Paul est en train de dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui sont permises, mais ces choses ne sont pas utiles. Parlant à Timothée, il dit à Timothée, dit mon fils Timothée, combat le bon combat de la foi. En d'autres termes, comme pour il était en train de dire à Timothée, c'est que dans la vie, tu rencontreras plusieurs batailles, mais ce n'est pas toute bataille dans laquelle tu dois te battre. Tu dois être sélectif dans les types de batailles dans lesquelles tu dois être. Et les batailles dans lesquelles tu dois te lancer, ce sont les batailles qui ont trait à conserver la foi au-dedans de toi. Il dit, cette foi et cette conscience, plusieurs l'ont perdue. Et ils se sont détournés de Dieu. Mais la pensée de cette conférence, c'est de nous ramener là, afin que nos yeux restent fixés sur Dieu. Que nos yeux restent fixés sur Dieu. Alors je voudrais que nous retenions quatre choses, parlant de décrocher, parce que c'est là que je veux plutôt m'apesantir. Le deuxième mot, décrocher. Le troisième mot, accrocher. Mais je veux m'apesantir sur décrocher. Et quand on parle de décrocher dans la pensée de Dieu, ou dans la pensée même de cette conférence, c'est que Dieu cherche à nous enlever dans un lieu où on a été comme prisonnier, comme étant fixé, comme étant cloué, comme étant arrêté, comme je l'ai dit à l'introduction, afin que nous allons dans un lieu où il peut nous parler. Ce que j'aime au début de la création, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il a placé également un endroit où il a décidé de se rencontrer avec cet homme. Et quand on veut décrocher, quand on veut réactiver, on veut simplement nous ramener dans cet endroit où notre intimité avec Dieu devient fluide, où notre relation avec Dieu devient aisée. Que nous entrons dans une dimension de communion, dans une dimension d'intimité profonde avec Dieu. Certains disent, bon, je suis encore jeune, j'ai tout mon temps. Mais vous savez, même la Bible a tout prévu. À tel point que quand on lit dans 1 Jean, on se rend compte qu'il y a également une part des responsabilités des jeunes. Il dit, non, je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, mais je vous ai écrit également jeunes gens parce que vous êtes forts, la parole de Dieu habite en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc nous également, comme nous sommes ici, nous avons également une responsabilité. Une responsabilité. Et dans cette responsabilité, Dieu est venu nous changer de positionnement, nous changer d'adresse. La deuxième des choses, c'est que Dieu veut que nous abandonnions ce que nous faisions ou ce sur quoi nous étions attachés qui n'a rien à voir avec ses propres objectifs. Vous savez, je ne veux pas vous prêcher notre évangile que celui qui a prêché les apôtres, que ce qui est écrit dans la Bible. Je ne veux pas vous parler de ce qui est des motivations et des motivateurs du monde. Mais je voudrais simplement nous ramener, comme Paul le dit, à ce qui est bienséant, à ce qui est de la parole de Dieu, à ce qui est vertueux, à ce qui constitue notre force. La troisième des choses, c'est que nous devons accepter de répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, répondre à l'appel de Dieu? Et quand on parle de répondre à l'appel de Dieu, il y a deux choses que je voudrais signifier dans ce point. La première chose, c'est que quand on parle de répondre à l'appel de Dieu, on fait allusion à deux hommes qui se trouvent, mais dans des distances, dans des lieux éloignés. Quelqu'un qui cherche à joindre une autre personne, mais pour lequel il n'a pas la facilité de lui parler, de le chuchoter. Quand je décide, si j'ai décidé de crier le nom de Don ici, en l'appelant, c'est parce qu'il n'est pas tellement proche de moi, afin d'attendre, même quand je parlerai à voix basse. Dieu a besoin qu'on soit tellement proche de lui, de telle sorte que même lorsqu'il sera en train de nous parler, qu'il nous parle comme à ses intimes, qu'il nous parle à nous. Vous savez, on est tellement parfois habitués à écouter Dieu dans la foule, à prier Dieu dans la foule, mais ce programme nous ramène à un degré d'intimité. Non, je suis habitué que quand il faudrait prier, je viens à l'église, à la conférence, mais quand je suis chez moi, à la maison, je n'ai pas de temps de prière. Je n'ai pas de temps de lecture de la Bible. Je n'ai pas de temps de seul à seul avec Dieu. Un jour, un ami était en train de me faire rire, il dit, vous savez, la plupart des chrétiens, c'est qu'on aime combattre les diables quand on est en équipe. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui accepte de venir dans une bataille quand on est en équipe? Vous savez, quand on vient à l'église, certains prennent la décision et les radicalisent et disent, non, je vais chasser les diables. Je vais l'arrêter dans ses activités. Vous savez ce que le diable fait? Le diable décide de faire ceci, il dit simplement, ok, quand tu vas sortir de là où il y a beaucoup de gens, là, on sera moi et toi. Je vais voir ce qui sera ta force pour m'affronter moi-même. Quand tu es là au milieu des autres, tu es en train de combattre, tu es en train de prier, tu es en train de prendre des décisions. Mais il dit, ok, ça va, ce n'est pas un problème, finis de prier. Vous savez, nul ne peut décider de venir chez toi à la maison, afin que tu le battes chez toi à la maison. Le diable ne va pas attendre qu'on vienne ici pour qu'il décide de venir nous combattre ici. Les lieux où le diable décide de nous combattre, ce n'est pas chez nous, ce n'est pas ici, c'est à l'extérieur de l'église. Et quand on est à l'extérieur de l'église, on doit avoir maintenant cette vie d'intimité avec Dieu, afin de lutter avec lui, là où mon frère n'est pas, afin de me fortifier également, de me donner le courage de prier. Ainsi, on peut venir, nous jeunes, on va dire, non, président, j'ai prié dans la conférence que Dieu m'épargne de ces formes de tentations. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai rencontré que les tentations sont là et je suis tombé dans les mêmes tentations. Parce que le terrain des batailles spirituelles ne se trouve pas au moment où nous prions. Ne se trouve pas à l'église, mais à l'extérieur de l'église. Le diable dit, ok, tu finis de prier, attends, ok, on va se retrouver là à l'extérieur. Je ne sais pas si ça existe encore, mais nous, quand on était encore à l'école et qu'on décidait de se battre, en tout cas, les jeunes d'aujourd'hui, vous ne vous battez plus comme nous à notre époque. Nous, à notre époque, on se battait trop. Et à chaque fois qu'on se battait, on pouvait dire à un ami, ok, on va se retrouver à l'extérieur. Et puis après les cours, on est à l'extérieur, je suis avec mes amis. Et puis je dis, viens, 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 on va se battre. Puis regarde, parce que j'ai beaucoup d'amis, il me dit, non, je ne vais pas me battre maintenant. Mais je vais te chercher une place où les autres ne seront pas là. Et puis nous, on pense qu'on a gagné la bataille. Et puis après un jour, on est en train de passer seulement dans une avenue. Quand on fait le premier virage, on se rencontre avec lui. Quand tu rencontres avec lui, il te tient et te dit, « Benye, moukoua nan intimidé na wabi kouapi. » Ouais, puis quand on a ça, tu dis, « Ah, bon, moukoua, pardon. » En fait, ce n'était pas moi. Non, de la même manière également, parfois, ça nous arrive dans notre vie chrétienne. Et le but de cette conférence, c'est de nous amener à être actifs en tout lieu, de nous réactiver de telle sorte que notre vie chrétienne ne dépende pas simplement des quatre murs du temple, non. On n'est pas chrétien ici, on est chrétien à l'extérieur. On ne vit pas sa vie d'intimité pour dire que je suis chrétien ici. C'est quand on est à l'extérieur et qu'on fait face aux tentations. C'est quand on est à l'extérieur et qu'on fait face aux défis. C'est là qu'on mesure notre intimité, notre attachement par rapport à Dieu. Et quand on est ici, le diable dit, ok, je vous attends de l'autre côté. Que Dieu nous donne à être actifs et de tenir en tout lieu. La deuxième des choses, c'est que parlant de l'appel, c'est que l'appel se passe par l'intermédiaire des instruments ou des appareils. C'est qu'au-delà de nous réactiver, Dieu veut faire également de nous des agents de réactivation. C'est que si quelqu'un pensait que ce programme lui concerne simplement seul, ça ne te concerne pas simplement toi. Dieu a également un rendez-vous avec les personnes qu'il cherche à atteindre au travers de toi. Parce qu'il y a un niveau quand on est actif, à tel point qu'on devient un instrument, un canal, un outil de Dieu, afin que les autres également viennent à Christ. C'est ainsi que Paul dit ceci, non, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Est-ce que c'est possible que dans nos écoles, dans nos lieux de travail, partout là où on est, quelqu'un peut dire réellement de nous que nous appartenons à Dieu? Qu'est-ce que les gens disent de nous quand on n'est pas à l'église? Est-ce que nous sommes de ceux-là qui, quand le monde regarde, ils disent que « Kama ulena na ombak » Mais façon, je connais cette personne à l'extérieur de l'église. Et que quand je viens la voir à l'intérieur de l'église, la façon dont elle prie, moi-même, ça m'étonne. Mais notre vie servant à être un instrument de Dieu doit être enfin également d'attirer les autres à Christ. Afin que le monde voie Christ également au travers de nous. Alléluia. Alors, je voudrais parler à trois types de personnes pour cinq formes de principes que Dieu a mis à mon cœur, qui nous permet de rester actifs. Le premier type de personnes, c'est que vous savez, parfois, on a ce genre de type de frères ou de sœurs qui ont déjà accepté Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont décroché l'appel de Dieu, qui marchent déjà avec lui. Mais dans leur marche avec Dieu, à un certain moment, ils sont en train de régresser. Ils sont en train de perdre des vitesses. Paul, parlant à ce genre de personnes, il est en train de dire ceci. Ceux qui courent dans les stades courent tous. Mais un seul remporte le prix. Il dit courir des manières à les remporter. C'est-à-dire quoi? Pour remporter le prix de l'activation, il y a une manière de s'éteindre. Il y a tout un système qui doit être mis en place. Il y a tout un système. Donc Paul est en train de signifier deux choses. C'est que n'ayons pas simplement des buts, mais ayons également des manières ou des systèmes établis au-dedans de nous qui nous permettent de tenir et de continuer à poursuivre nos buts. Vous savez, parfois, quand tu es sur une montagne, tu es capable de voir le lieu là où tu es en train de partir. Mais quand tu descends dans la vallée, les lieux que tu avais vus, tu ne le vois plus parce que tu n'es plus sur un lieu élevé. Mais ce qui nous permet de tenir dans la vallée, c'est les systèmes mis en place ou les valeurs cultivées au-dedans de nous, afin de nous permettre de continuer à suivre les buts. Ainsi, on peut avoir quelqu'un qui, ça fait 10 ans, il est en train de prier, tu as fini les études, 10 ans, tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi travail, donne-moi travail. Quelqu'un te dit, hey, tu continues toujours à prier. Tu penses que Dieu donne toujours travail. Lui, il va dire, oui, je sais que Dieu donne toujours travail. Mais qu'est-ce qui permet à cette personne de continuer à croire, même lorsqu'elle est dans la vallée? C'est tout un ensemble de systèmes et de valeurs qui ont été mis en place. La deuxième des choses, c'est que, je serai très bref en avançant, c'est des frères et sœurs qui, nous passons par des moments difficiles. Et ces moments difficiles-là ont tendance à nous dire, est-ce que c'est important de rester attaché à Dieu? Tu passes par des moments compliqués. Vous savez, moi-même, je suis passé par des moments très compliqués, pas moi-même, mais notre famille, on est passé par des moments très compliqués. À une époque, on s'est réveillé le matin, on ne savait pas ce qu'on va manger. Et quand on se réveille, on peut voir que la farine de maïs. On prend cette farine de maïs, on fait du foufou. Et quand on fait du foufou, tellement qu'on n'a pas quoi on va manger avec, on prend Vous voyez, quand tu as préparé le foufou, tu as déjà coupé des tartines. Et puis après, ce qui reste dans la marmite, tu ne l'as pas comme il ongoule. Et puis après ça, il y a l'ongoule, il est, tu as décidé que coule mon esprit à Sambaza. Tu vois? Hein? Donc, on a coulé les macocotes, mon esprit à Sambaza. C'est là que j'avais compris qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas ce qui passe dans ta bouche, mais c'est l'esprit à l'intérieur de toi. Et ces choses, on est passé par ça. On est passé par ces temps tellement difficiles, à l'époque même quand la farine pouvait manquer, ça devient tellement peu qu'on prépare du foufou et puis après on prend simplement de l'eau, on met du sel à l'intérieur. Et puis après on commence à manger. Et dans ces temps difficiles, la question c'est celle de savoir, est-ce que Dieu est réellement avec moi? La plupart des temps, on est désactivé par des situations qui nous amènent à douter ou remettre en cause. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est avec nous? Mais je voudrais dire à quelqu'un ceci, c'est que s'il y a la croix, c'est qu'il y a également la résurrection. Dieu ne peut pas te permettre de passer par la croix s'il n'a pas prévu pour toi la porte de la résurrection. Il sait que cette croix n'est pas ta finalité. Tu passeras par cette croix, tu la porteras, mais bien même quand tu seras dans le tombeau, il t'amènera à ressortir vivant de ses cendres. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, peu importe la situation par laquelle ta famille passe, tu as raison de t'attacher à Dieu, tu as raison de continuer à croire. Tu as raison de garder cette flamme de Dieu, de reprendre des vitesses, de réactiver ta vie et ta communion avec Dieu. Vous savez, la première des choses qu'on enseigne à un soldat, quand il accède dans une armée, ce n'est pas de vivre, mais c'est de mourir. Quand tu décides d'entrer dans l'armée, la première des choses, quand on commence à te faire de la formation dans l'armée, on ne t'apprend pas à vivre, on t'apprend à mourir. Et je suis venu aujourd'hui, permettez les termes, je suis venu faire les obsèques de ceux qui seront réactivés dans cette conférence. Je suis venu déclarer à quelqu'un que si tu veux rester actif, tu dois accepter de mourir à toi. C'est là que Paul dit à Timothée, dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Car il n'y a pas un soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Cette conférence va faire ressortir des soldats, de ceux qui vont sortir ici, non pas vivants mais morts, mais morts à eux-mêmes, morts à certaines formes de ressentis, morts à certaines choses qu'on aurait bien voulu avoir mais qu'on n'a pas encore, morts à certains défis de la vie. Non, j'aurais bien voulu avoir 30 ans, être déjà, avoir déjà... Avoir déjà réalisé, obtenir, posséder. C'est possible que tu ne possèdes pas ces choses, mais Dieu est avec toi et tu dois accepter de rester actif malgré les défis des temps et de la vie. C'est la troisième catégorie de personnes et la dernière. C'est ce genre de personnes qui, lorsqu'ils regardent la vie des autres qui sont en ruine, qui ont déjà accepté le Seigneur, ils disent que comme on peut tailler sous Nibiaïv. On peut voir un frère zélé, un frère qui prie, un frère attaché au Seigneur, mais nous, quand on le regarde avec sa chaussure, il n'a pas de mal. Tu regardes cette sœur qui regarde une autre sœur, elle est belle, vertueuse, elle accepte de toujours de s'habiller de manière décente, mais elle n'a pas encore démarré. On a dit, où qu'on a, on a peine à me dire, on a quitté mon activation. En tout cas, à pas toucher à toi en mode avion, tu n'as pas mode avion. Moi, désactivé. Pourquoi? Parce qu'on a regardé les ruines des autres et on n'en a rien trouvé de bon. Mais ce que je voudrais nous dire, ceci, c'est que dans le processus de la création de Dieu, c'est que le soir précédera toujours le matin. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, il y a un soir, c'est-à-dire le moment où rien de bon n'est visible. Mais ce soir prépare toujours un matin. Et quand le matin arrive, Dieu dit, il vit que cela était bon. Peu importe la soirée, peu importe la nuit par laquelle tu es en train de passer, tu as raison de t'attacher à Dieu parce qu'il y a un jour qui est en train de s'élever. Parce qu'il y a un temps favorable sur toi qui est en train de s'élever. À tel point que les gens ne vont pas comprendre en disant que qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, pendant longtemps, je suis à l'église Arche de l'Alliance, je sers le Seigneur. Cette église, à une époque, ça c'était à l'époque où on servait les seigneurs, on venait à Gomaville pour les répétitions, on passait dans des célébrations. Vous savez, à cette époque-là, j'avais une paire de souliers. Mais cette paire de souliers-là, elle était déjà totalement trouée en bas. C'était le type de paire de souliers où Dieu, quand on est ses enfants, il s'arrange de conserver notre gloire. C'est-à-dire, il nous couvre la honte. Au-dessus, là, c'était encore tout beau. Et heureusement que ce n'était pas beau, raison à combo, zalana combo. C'est-à-dire que c'était une paire de baskets en pouma. Mais les frères ne pouvaient pas se mettre à genoux à l'église parce que si je me mets à genoux à l'église, je vais scandaliser la sœur ou le frère qui est derrière moi. Je vais scandaliser. J'avais une chemise que je venais avec ça ici souvent à la répétition. C'était une chemise rouge bordeaux. À tel point que je crois que les jeunes m'avaient déjà donné un nom. Les frères à la chemise rouge bordeaux. Parce que c'était la seule chose que j'avais. Et peut-être dans ces moments difficiles, personne ne pouvait envier de servir Dieu. Je ne pouvais pas être un instrument d'appel pour les autres. Mais je suis en train de dire, peu importe l'obscurité par laquelle tu es en train de passer, reste actif, reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Dieu sait. Dieu sait. Dans Luc chapitre 16, le 20e verset, on nous parle d'une histoire. On parle de ce jeune homme, on parle de cet homme riche et on parle également du pauvre Lazare. Mais regardez le contraste. Dans ces versets, on parle d'un homme riche, mais pour lequel on ne connaît pas le nom. Mais on parle d'un pauvre pour lequel on connaît le nom. C'est que ça ne dépend pas que les hommes connaissent ton nom, mais quand le ciel connaît ton nom, bien que tu n'aies des richesses, alors tu vaux plus pour Dieu que pour les hommes. Ce pauvre, c'était un pauvre, mais quand il arrive au ciel, on connaît son nom. Mais cet homme riche, on ne connaît pas son nom. On ne connaît pas son nom. Les paradoxes de la vie. Alors le premier principe dans la réactivation que je voudrais nous proposer ce soir, le premier principe, c'est que pour rester actif et même pour réactiver, il nous faut garder et conserver la foi. Il nous faudra garder et conserver la foi. Le premier niveau de bataille dans la désactivation, le premier niveau de bataille dans la réactivation n'est pas d'abord un combat lié à notre pensée, mais le combat de la foi. Ces temps de la nuit, la seule chose, le premier élément qui nous permet à rester attaché à Dieu, bien même qu'on ne voit rien de ce que des promesses à Dieu, c'est la foi. Alors il faudrait qu'on garde la foi. Moi j'ai défini la foi comme ça. C'est que si tu veux savoir si tu as la foi ou pas, c'est que moi j'ai dit que la foi c'est un mot d'action qui marche grâce à deux pieds. Le premier pied de la foi, c'est croire. Le deuxième pied de la foi, c'est agir. Si tu crois, tu continues à agir. Si tu crois, tu continues à agir. Dieu n'a pas encore répondu tes prières. Tu crois, tu continues à prier. Il n'a pas encore répondu, je crois, je sais qu'il est assis sur son trône. Je continue à prier. Je crois, mais également j'agis. Donc la première des choses, c'est qu'il nous faudra garder la foi. Comme j'ai dit à l'introduction, Paul parlant à Timothée, il lui parle déjà, il lui dit non, l'élément que tu dois garder, mon fils Timothée dans la foi, combat les bons combats de la foi. Le premier niveau de bataille dans la réactivation ou dans le fait de se garder actif pour Dieu, c'est le niveau du combat de la foi. C'est quand le diable vient auprès de nous et il nous dit, l'Éternel a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il remet en cause les promesses que Dieu t'a dit non. Est-ce que Dieu t'a-t-il réellement dit donc que tu prospéreras? Mais ça fait combien de temps tu n'as pas encore touché de l'argent? L'Éternel a-t-il réellement dit que c'est de toi que le relèvement de la famille passera? Il y a longtemps que tu as entendu ça, mais tellement que tu ne vois pas se réaliser, ça vient ronger notre propre foi. J'ai fini les études, mais je n'ai pas encore un travail. Est-ce que Dieu est-il réellement capable de donner la foi? Est-ce que Dieu est-il capable vraiment de donner le travail? Est-ce que Dieu me connaît? La remise en question de notre foi et de notre attachement à Dieu. Et dans notre texte de base, qu'on a lu dans Jean chapitre 20, la Bible nous parle de cette histoire. Et dans cette histoire, on nous parle de Marie de Magdala, qui a décidé d'aller au sépulcre tôt le matin. Certaines autres versions disent que c'était dans l'obscurité, mais pour adorer Jésus. C'est le temps de silence de Dieu. Vous savez, il y a des fois où on a l'impression que Dieu est mort. Je sais qu'on est des jeunes, on a déjà suivi les films et Dieu n'est pas mort. Je voudrais nous dire Dieu n'est pas mort. On a l'impression que quand on suit Christ, notre Christ, il est dans le tombeau. C'est facile d'être attaché à Christ en plein jour, quand tout va bien. Quand tu te réveilles le matin, tu as une table où tu as tu as le pain, tu as fromage, tu as. C'est facile de s'attacher à Dieu, de dire, Seigneur, je te loue de ce que tu m'aimes. Mais le matin, quand tu te réveilles et que tu regardes, je sais que tu as trop comme ça, je suis comme ma fille, je suis comme ma fille. Avant, on a dit, comment tu as coulé, on a dit, on a dit, on a dit, comme on a dit, 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 on a dit. Mais il y a de ces temps également qu'on doit passer. Et que même quand on touche les mbaboulas de notre vie, on ne sent pas la chaleur de Dieu et qu'on continue à louer, à adorer Dieu. C'est un niveau de rester actif, élevé, de garder la foi. C'est facile pour nous de louer Dieu quand tout va bien. Mais qu'en est-il de quand tout va mal? Qu'en est-il de quand rien de bon ne va? Qu'en est-il de quand les parents t'ont dit cette année, on ne va pas payer pour toi les études parce qu'il n'y en a pas d'argent? Qu'est-ce que tu as fait pendant cette situation-là? Tu as dit, derrière Dieu n'existait pas. Un ami à moi, j'ai toujours donné cet exemple, un aîné scientifique, quand on était à l'université, il était de plusieurs promotions au-dessus de nous. Il réussissait, réussissait, toujours avec distinction. Et Dieu lui avait donné une promesse un jour dans la prière. Il dit, non, tu iras poursuivre tes études en dehors du pays. Tu as gardé cette promesse et quand tu distingues, tu sais déjà que c'est pas assez. Et le frère, il arrive en dernière année de licence, L1 de l'époque, c'est pas L1 de cette époque. Quand il arrive en première année de licence, subitement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Lui-même ne sait pas comment expliquer ce qui s'était passé. Il échoue en première année de licence. Alors qu'en G1, il a distingué, G2, il a distingué, G3, il a distingué, L1, il échoue. Et lui-même, il était fervent dans la foi et dans la prière. Il a commencé à dire, comment Dieu peut m'humilier à ce point? Oh, parfois, Dieu peut t'humilier parce qu'il a l'intention de t'élever en hauteur. Parfois, certaines formes qu'on peut penser d'humiliation de Dieu sont qu'un tremplin pour nous amener dans notre propre gloire. Et le frère, il a fini, il a laissé l'église, il a tout laissé. Il reprend la promotion, il réussit, il distingue encore. Il entre en deuxième année de licence, il refait, il distingue. Mais regardez le plan de Dieu. L'année où il avait échoué en L1, et ceux qui sont passés en L2, il n'y avait pas eu de bourse pour aller étudier à l'étranger. Le temps où il arrive en L2, une bourse s'est occasionnée et il devait aller étudier en Allemagne. Et le frère, parlant de son histoire, il dit, le jour où il arrive en Allemagne et qu'il est en train de descendre de l'avion, subitement, la promesse de Dieu revient active dans son esprit. Pas. Est-ce que je ne t'avais pas dit que tu finiras tes études hors du pays? Et quand ça revient dans son cœur, c'est là qu'il se souvient que Dieu est toujours fidèle. Il se met à genoux, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Et pour cette année où je n'ai même pas prié, j'avais tout abandonné. Ce que Dieu a promis dans ta vie, Dieu le fera. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Tout ce qu'il nous faut, c'est celui de garder notre foi active. Garder notre foi active. J'avance rapidement pour finir. Vous savez, Marie de Magdala décide d'aller voir Jésus pendant que Jésus est dans le sépulcre. Pendant qu'il est dans le sépulcre. Ce n'est pas tout le monde qui comprend la valeur du silence de Dieu. Peut-être Dieu est silencieux pour toi aujourd'hui, mais le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Alors accepte de réactiver. La deuxième des choses pour la réactivation, c'est qu'il nous faudra nous associer aux bonnes personnes. Il faudra nous associer aux bonnes personnes. Choisir un compagnon avec qui on avance ensemble sur la même voie. On dit ceci, c'est que seul, on va vite, mais à deux, on va plus loin. Dieu a l'intention, Dieu désire que tu ailles plus loin. Dieu désire que tu ailles plus loin, non pas que tu ailles simplement plus vite. Alors, pour rester actif à un certain moment de la vie, on a besoin d'avoir un compagnon, une personne avec qui on s'associe, une personne qui, quand ça va mal, elle te regarde et dit, demain, ça ira. Une personne qui, quand je vais baisser la garde et je vais abandonner la foi, il te rappelle, il te dit, non, hier tu as prié, peut-être Dieu va répondre, alors continue à croire aujourd'hui. N'abandonne pas la foi. Et c'est là qu'il faudrait que nous choisissions les personnes avec qui nous marchons. Alors je voudrais juste te dire ceci à quelqu'un. Comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Les types de fréquentation autour de nous déterminent si on sera capable d'être réactivé ou si, bien qu'on est actif, on va arriver à être désactivé. Ce message de réactivation n'est pas simplement pour ceux qui sont déjà désactivés, mais également une prise de conscience même pour ceux qui sont encore actifs et attachés également encore à Dieu. Quels sont les types de personnes avec qui on s'associe? La Bible parlant de cette histoire, on dit ceci, c'est que quand Marie vient dire à Pierre qu'on a pris Jésus, je ne sais plus où on l'a mis, et Pierre s'élève avec un disciple, ils décident de courir ensemble. Alors qu'ils couraient ensemble vers les sépulcres, on dit ceci, ça je vais donner au troisième point, c'est que l'autre disciple a couru plus vite que Pierre. Ce que je voudrais parler dans l'association, c'est celle-ci. C'est que nous devons accepter d'avoir des associations premièrement avec nos pères. C'est-à-dire, vous savez, dans notre génération, nous sommes la génération de Melchisédek, on n'a ni père. On dit non, moi je crois simplement à Dieu. Je n'ai personne qui me donne des orientations. Je n'ai personne qui peut me dire ce que je dois faire. Je n'ai personne qui peut me dire non, même quand moi-même je pense oui. Pour rester actif, il faudrait avoir des personnes qui sont capables de te dire non, bien que comme toi-même, tu penses que c'est oui. Vous savez, une fois, j'avais reçu une invitation quelque part. J'avais tellement voulu aller. Et quand je suis parti voir mon pasteur, le révérend Eston, j'ai dit, papa, on m'a donné une invitation quelque part et je voudrais bien y aller. Il m'a regardé, il m'a dit, Kanyamaz. Il n'a rien répondu. Deux jours après, je l'ai relancé. Il dit, papa, l'invitation que je vous avais dit, n'a rien répondu. Deux semaines, trois semaines après, lui-même vient, il me pose la question, prince, l'invitation dont là tu m'avais parlé, tu es parti? J'ai dit, non papa, je ne suis pas parti parce que tu ne m'avais pas donné l'autorisation de partir. Et puis il m'a regardé, il a dit, ça va, chakoma. La plupart des temps, on n'a pas simplement besoin d'avoir des personnes qui nous disent oui quand on pense c'est oui. Pour rester actif, on doit avoir des personnes qui nous disent non quand même nous-mêmes on pense oui. Des personnes qui peuvent venir te dire, donc, tu as trop pris des photos, c'est le temps de laisser les photos d'aller prier. Et puis tu dis, non, mais quand même, il y a conférence. On dit, va à l'intercession, va prier. On a besoin de ces personnes qui nous donnent des orientations. Deuxième type de personnes, c'est qu'on a besoin également d'avoir, de s'associer avec nos pères, c'est-à-dire nos frères, ceux avec qui on est de la même génération, ceux avec qui on peut collaborer et échanger. Et c'est là que se place toute la difficulté dans la réactivation. Parce qu'autour de nous, on a des personnes qui parfois contredisent nos propres valeurs chrétiennes, nos propres valeurs d'activation. C'est là que le psaume chapitre 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Vous savez, on a beaucoup de jeunes comme ça. On peut être une jeune fille et puis après on est au milieu de nos amis. Et puis la sœur est en train de dire « Hey, tu sais hier, il y a qui est papa ?» Où le papa n'est pas si malade. Qui chanawo ko parle mukiso. C'est maintenant alifanin. Pourquoi? Parce qu'au dedans de toi tu t'es dit niki mombeke ni mubaya. Atenu na niko yuma. Alors je décide de garder des anti-valeurs plutôt que de protéger des valeurs chrétiennes. Combien la plupart des temps nous sommes chrétiens, mais quelqu'un nous a invités, peut-être un supérieur, peut-être quelqu'un qu'on respecte, il nous a invités, on a dit bon, est-ce que tu peux m'accompagner en boîte? On a dit que oui, qui m'a dit que c'est un syndicat. Si tu as pas 50 balles, les affaires à la semaine. Il y a des choses qu'on va perdre pour rester actif. Il y a des avantages qu'on va perdre pour rester actif. Il y a des choses qui étaient pour nous comme un gain qu'on doit regarder comme étant de la boue parce qu'on veut rester actif. Il y a des bienfaits qui étaient pour nous hier dans le passé, mais qu'on doit regarder comme de la boue. On doit regarder, on dit non, pour la gloire de Christ, je décide d'abandonner ça. Ça me faisait du bien hier. Mais à cause d'où je suis en train d'aller, je décide de regarder cela comme de la boue. Vous pensez que quand Paul a dit des choses qui étaient pour lui comme des gains, vous pensez qu'il parlait de quoi? Vous pensez que Paul également ne regardait pas ça et dit Seigneur, il y a des opportunités qu'on va perdre pour rester actif. J'ai dit que je suis venu faire les obsèques de ceux qui doivent rester actifs. Donc je suis venu dire à quelqu'un que tu dois mourir pour rester actif. Et la dernière des choses, c'est que quand Pierre... Quand on s'associe à des bonnes personnes, Pierre et Jean décident de courir vers le sépulcre de Christ. Mais alors qu'ils sont en train de courir, regardez ce qui se passe. On dit ceci, c'est que l'autre disciple, c'est-à-dire Jean, courut plus vite que Pierre. Mais il arriva au sépulcre, mais il n'entra pas. Il resta à la porte. Mais on dit ceci, c'est que Pierre vint. Vous savez ce que j'aime avec nos pères, hein? C'est que parfois, il peut marcher lentement et on a l'impression que nous, on connaît plus qu'eux. Mais à un certain moment, on va arriver dans une situation où on ne sait pas comment avancer. Et puis après, on va voir les vieux qu'on regardait. Tu vois, parce que tu as imposé les mains à un malade, une fois il a été guéri, deux fois il a été guéri. Quand tu vois ton pasteur, tu dis, ah, chaque fois, amen. Et puis demain, tu vas rencontrer une situation, tu pries, ça ne change pas, tu pries, ça ne change pas. Tu fais 40 jours, ça ne change pas. Tu fais 60 jours, ça ne change pas. Et puis subitement, quand tu pars parler à un vieux comme un Pierre, il arrive et puis il dit, ok. Il prononce juste une phrase. La situation change. Et puis tu regardes les vieux, tu dis, Isaïe, et moi j'ai fait ici. Rien n'a changé. Mais vous, vous venez en quelques temps. J'ai l'impression, on a, vous savez, nous de notre génération, quand on regarde nos pères, on a l'impression qu'ils sont en retard par rapport à nous. Et certains d'entre nous ici nous disons, vieux, on est parti à Télé Mazaba, toi, une semaine. Ni connais chez Maubiriziko. Hein? Mouchanza cheza cheza sana. Moutoupatie chez Vijana Mazabao. Tout on habite. Mais une fois, c'est arrivé à un de mes frères chez nous à l'église. Il est parti voir les vieux. C'était à notre extension à l'Arche Béni. Il est parti voir les vieux. Il a dit, papa, j'ai beaucoup de choses. Beaucoup de choses à enseigner. Donne-moi la chair. OK, le vieux a dit. Tellement qu'il avait beaucoup insisté. Dans les séminaires qu'il avait suivis, il lui a donné 3 jours. Ah, les frères étaient très contents. Puis il est parti le premier jour. Il a prêché, 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 prêché. Et puis, il s'étonne, il arrive quelque part, il fait comme ça. Et puis, il dit, Mobili Shesha. Il pensait qu'il avait beaucoup de choses à dire. Non, je voudrais dire ceci, c'est qu'on regarde les pères parfois, mais on a l'impression qu'on est plus évolué qu'eux. Ils peuvent certes marcher lentement, mais il y a des lieux où on arrive comme nous, nous sommes en arrêt, et eux viennent et nous dépassent plus aisément que nous. Pour rester actif, il faudrait rester à côté de ceux qui sont capables de nous montrer la voie. Pour rester actif, on doit rester à côté de ceux qui ont de la connaissance plus que nous. C'est là que Jean dit, je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Mais je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. Comme pour dire ceci, c'est que la force d'un jeune, s'il n'est pas associé à la sagesse des pères dès le commencement, est gâchée. Il faudrait que notre force en tant que jeune soit régulée par les pères qui ont la sagesse de celui qui est dès le commencement.
La plupart des temps, quand on regarde les pères, on dit, ah bah, vie, ah bah, passe.
Et c'est là que je lis dans 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit ceci, les visions étaient peu fréquentes et la parole de Dieu était rare, mais l'Éternel Dieu est venu et a parlé à Samuel. Il a dit, Samuel, Samuel. Quand l'Éternel parle à Samuel, Samuel part auprès de lui, il dit, vieux, où l'nite? Mais c'est quoi ça? Anen d'Athéna nalala, anarudi Athéna. C'est que peu importe la dimension où Dieu parle déjà à Samuel, il aura toujours besoin d'un Élie qui va lui orienter selon la voix que Dieu lui a parlé. Il peut y arriver un jeune, tu entends une voix, Dieu te parle concrètement, clairement. Commence une mission, commence un ministère. Et puis après, on a dit, « Vieux, pourquoi je suis catalé à Mazaba, ou moi, je suis parti à ministère, je suis ministère. » Quand tu pars regarder le vieux te dit, « Mon fils, je pense que tu dois attendre. » Le rôle des pères dans la réactivation, c'est de nous garder dans la pensée de Dieu. De nous garder dans la pensée de Dieu. La dernière des choses, et que j'ai déjà dit, c'est qu'il faut que nous mourons à nous-mêmes. Et ça, j'ai insisté le long de tout mon message. Nous devons accepter de mourir à nous-mêmes. Je voudrais que qu'on incline nos têtes dans la prière. Et alors que tu inclines ta tête dans la prière, je voudrais que tu fasses cette prière. Peut-être ta propre vie est tellement en ruine, et quand on est en train de parler des réactivations, tu dis, est-ce que Dieu me connaît? Mais ce soir, Dieu m'a envoyé enfin de te rappeler qu'il te connaît. Il dit à Jérémie, car je connais le projet que j'ai formé sur toi, Dieu l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Peut-être quand on parle de ce que Dieu visite, tu regardes ta propre vie, tu dis, où est la visitation de Dieu? Quand tu regardes les situations par lesquelles ta propre famille peut-être est en train de passer, tu dis, est-ce que Dieu nous connaît? Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que parfois on ne comprend pas l'essence des mots et des actions de Dieu tant qu'il n'a pas encore fini tout ce qu'il est en train de faire. Quand Dieu finit tout ce qu'il a commencé à réaliser, c'est alors qu'on dit, Seigneur, tu étais bon, même quand j'étais dans la vallée. Et c'est là que David dit, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai chanté ces refrains que je voudrais qu'on chante en prière.
Je te donne mon, je dirai à mon âme, tu es. Dieu. Même quand je ne vois rien, je lève mes mains, je lève mes mains. C'est pour toi que ce programme a été conçu. Dieu a besoin de réactiver, de ranimer, de rallumer une vie d'intimité, une vie de communion avec lui. Ah, mais s'il est même, s'il est même, se déchire, tu parles, tu l'es, tu es mort. Je voudrais prier avec une catégorie de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui regarde les choses de Christ de loin. Et quand on parle de s'attacher à Dieu, ils disent, y a-t-il un bien à s'attacher à Dieu? Comme Asaph, dans le psaume 73, il pouvait dire, mon pied était sur le point de glisser quand j'ai contemplé les voies des méchants, jusqu'à ce que l'Éternel m'amène à comprendre qu'en tout cela, c'est que la fin et la finalité, c'est la mort. Quelqu'un peut être de ceux qui... Je viens peut-être à l'église tous les jours. Je suis membre de cette jeunesse. Mais quand il s'agit de la vie attachée à Christ, je préfère regarder ça de loin. Il est ni bitoubia, boy, ko bitoubietu. Dieu est venu également pour toi. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, tu vas juste lever la main. Dieu est venu également pour toi. C'est pour toi que cette parole est venue. Tu vas lever ta main et tu vas dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Tout ce que je suis, je te le donne. Tout ce que j'ai, je te le donne. J'abandonne ma vie entre tes saintes mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui a besoin encore de laisser son cœur à Dieu? Peut-être de ceux qui sont là en regardant les ruines de la vie des autres, disant que non, il n'y a aucun bienfait à s'attacher à Dieu. Mais nous sommes ici pour nous dire, c'est que quand on décide de réactiver notre vie avec Christ, il est celui qui prend en charge nos lendemains. Il est celui qui prend en charge nos destinées. Il est celui qui prend en charge tout de nous. Il est celui qui sécurise notre avenir. Je voudrais que tous on s'élève.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment un fort moment. Merci beaucoup au frère Prince. Pendant ce moment, je vais inviter Papa Dixos pour nous conduire dans cette prière. Nous allons rester debout.
Seigneur, nous sommes là. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Tu leur as envoyé ta parole et ta parole les guérissa. Merci Seigneur parce que tu as choisi ce jour pour nous rappeler qu'il y a un prix à payer. La consécration a un prix à payer. Seigneur Jésus, notre prière ce soir, c'est que tu nous aides à être vraiment là. Que nous ne puissions pas être là comme si nous étions en train d'écouter pour les autres. Non, Seigneur, nous voulons être là pour nous-mêmes. Parce que c'est pendant qu'ils étaient dans ta présence qu'on les a comptés. Et ce soir, tu nous as comptés. Tu as parlé au cœur de chacun de nous. Parce que ce n'est pas un hasard que tu aies choisi que nous soyons là ce soir. Seigneur, je sais que chacun de nous a trouvé sa part. Donnez-nous, Seigneur, d'être disposés à prendre la direction que tu viens de tracer, de rappeler à chacun de nous les promesses que tu as données. Même si la situation présente nous donne l'impression que ça ne va pas se réaliser, nous donne l'impression de voir le contraire exactement de ce que tu as promis. Donne-nous d'avoir la foi, donne-nous de garder la foi et de continuer à confesser ton nom, continuer à confesser ta Seigneurie dans notre vie, même si les circonstances nous montrent exactement le contraire. Tu l'as dit, que si tu l'as promis, ça va se réaliser. Donne-nous d'être cette jeunesse qui va s'attacher à toi. Même si, Seigneur, les circonstances présentes donnent l'impression du contraire de ce que tu as promis. Nous ne voulons pas tomber dans les pièges du diable. qui veut se présenter comme le donateur du bonheur, à présenter Dieu comme celui qui aime notre malheur, comme celui qui n'aime pas notre épanouissement. Nous voulons croire à ce que tu as dit, Jésus. Nous voulons croire à ce que ta parole nous a promis, parce que ce que tu as dit, ça va s'accomplir à ton temps. Donne-nous d'avoir le cœur patient pour expérimenter ces choses, être à mesure de donner des témoignages, parce que juste, il est question de temps. Si tu veux construire des témoignages dans nos vies, c'est pourquoi tu nous fais passer par ces moments. Dans cette vallée où mon frère, ma soeur se retrouve, alors que tu l'as parlé à la montagne, donne-les, Seigneur, d'être confiant, de garder la foi, pour qu'ils soient à mesure de traverser cette vallée et aller de l'autre côté de la montagne de l'accomplissement. Que la gloire te revienne, parce que nous croyons que tu nous as amenés ici ce soir pour nous tailler, pour nous façonner, pour nous redonner de la force afin que nous puissions continuer à bien marcher avec toi. Donne-nous d'être une jeunesse qui fait la différence, à s'attacher à toi malgré les événements. Parce que Seigneur, toi tu ne dépends pas des événements et des circonstances. Tu es Dieu par toi-même. Qu'importe ce que nous passons par, qu'importe ce que nous voyons, Seigneur, cela ne change à rien ta nature. Cela ne change à rien ta parole. Cela ne change à rien ton amour. La vérité, c'est que tu nous aimes. Tu n'as jamais eu à te fatiguer à nous prendre en charge. Et si c'était un homme qui nous prenait en charge, qui nous nourrissait, il se serait déjà lamenté. Mais toi, tu ne l'as jamais fait. Parce que tu nous aimes d'un amour échangeable. Tu nous aimes d'un amour immuable. Donne-nous que cela soit vrai dans nos cœurs pour que nous croyions que réellement tu nous aimes et que tu travailles pour notre bien, jamais pour notre malheur. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton nom soit loué. Laisse que cette parole continue à être ancrée fortement dans nos cœurs, dans nos esprits, pour que nous vivions par elle. Que ça soit cette réserve par laquelle nous allons marcher encore cette année, cette fin de l'année, et que même l'année prochaine, nous allons continuer à nous attacher à toi. Merci, cher Saint-Esprit, pour la libération de ta parole. Et merci pour la suite de cette parole que tu vas continuer à accomplir dans la vie de chacun de nous. Autant tu as chuchoté des paroles au cœur de chacun de nous ce soir, je prie que tu aides ma soeur, que tu aides mon frère, pour que nous marchions par rapport à ce que tu nous as dit. Parce que ta présence, c'est tout. L'autre a chanté que ta présence, c'est le ciel pour nous. Nous voulons croire que tu nous as amenés encore au ciel ce jour particulièrement, à nous partager cette parole qui change, qui brise et qui transforme des vies et qui nous édifie pour que nous puissions bien marcher avec toi. Bénis ton serviteur que tu as choisi d'utiliser comme ton instrument par la prédication. Bénis tes serviteurs que tu as choisi d'utiliser comme tes instruments par la louange et l'adoration, par tous ces services qui a eu lieu en ces lieux, et que toute la gloire te soit rendue. Oui, tu n'es pas forcément Dieu de spectacle. Tu es Dieu de la parole. Tu parles. Parce que tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous croyons que ce que tu as fait sortir de ta bouche et qui est tombé clairement dans les oreilles et dans l'esprit de cette sœur, de ce frère, Seigneur, cette sœur vivra par elle. Donne à ce frère, à cette sœur, de s'attacher à ce que tu as dit, parce que sa vie dépend de cela. Au nom de Jésus-Christ, sois élevé et sois glorifié, parce que cette jeunesse va s'attacher à toi mieux que ce qu'elle ne l'était avant, parce que tu as parlé et qu'elle va vivre par ce que tu as dit. Nous t'aimons et nous te bénissons. Laisse que nos cœurs débordent de joie à t'acclamer très fort, parce que tu mérites ces acclamations, Seigneur, tu les mérites. Parce que tu as parlé à nos cœurs, tu les mérites. Parce que par cette parole, nous avons la vie. Sois élevé, Seigneur, et sois glorifié, nous te prions. Parce que nous croyons dans les merveilleux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.